Vous écoutez
RMC. RMC, le Mimoka.
Zap.
Avec l'actu olympique pour démarrer.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
C'est le retour du dopage massif dans le sport olympique. L'Agence mondiale antidopage était égratignée, on va y revenir. D'abord, les faits, une nation est pointée du doigt, c'est la Chine. Nicolas Pelletier, bonjour.
Salut à tous.
Le New York Times et ARD, la chaîne allemande, révèlent que 23 contrôles positifs de nageurs chinois ont été étouffés juste avant les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, Nico.
Oui, et cette enquête secoue surtout l'Agence mondiale antidopage. Selon une enquête journalistique, le gendarme de l'antidopage était parfaitement au courant du contrôle positif des 23 nageurs chinois. Ces 23 nageurs ont tous été contrôlés positifs à la même substance, la trimétazidine, surnommée TMZ, qui améliore la circulation sanguine. Les contrôles datent d'un meeting de natation début 2021 et ils n'ont jamais été suspendus. 13 de ces nageurs ont même pu participer totalement normalement aux Jeux de Tokyo et ils ont même remporté des médailles. Une thèse est avancée dans le rapport de l'Agence nationale antidopage chinoise, une contamination par la nourriture préparée dans une cuisine de l'hôtel sur le lieu de la compétition. Cette thèse a été validée par l'Agence mondiale antidopage. L'AMA a évoqué un manque de toute preuve crédible pour ce dossier et dénonce des propos diffamatoires. Mais il y a énormément de zones d'ombre dans ce dossier. Si la Chine a divulgué ces informations dans le logiciel de l'Agence mondiale antidopage, pourquoi les nageurs n'ont jamais été suspendus le temps de l'enquête? Aucune investigation plus poussée de l'agence n'a pu avoir lieu. L'excuse trouvée, en raison du Covid, aucun enquêteur n'a pu entrer en Chine. L'AMA peut difficilement revenir sur son analyse sans remettre en cause tout son système.
Alors c'est la magie du super Moscato Show. Vincent est un spécialiste du produit incriminé, le TMZ. Tu nous expliques.
Ils en mettent à Castelnaudary dans le cassoulet. C'est une recette.
Ah, ça fait grossir les saucisses.
Exactement. Ça fait grossir. Et il y a certaines saucisses, quand t'as trop mis, la saucisse explose. Dans le cassoulet.
Ou alors elle part dans le du chien. Bim.
Alors on parle bien des
jeux de la saucisse volante
de Tokyo, mais il est possible que certains nageurs soient concernés par les prochains jeux de Paris. D'ailleurs, certains réclament des sanctions lourdes. Hein, et ça provoque énormément de réactions. Hein.
Nombreuses réactions à cette enquête journalistique. Le patron de l'enquête de l'agence antidopage américaine, Travis Stigart, estime qu'il existe des révélations choquantes et c'est un coup de couteau dans le dos de tous les athlètes propres. Selon lui, l'affaire sent le maquillage au plus haut niveau de l'agence mondiale antidopage. La star de la natation française, Léon Marchand, a juste tweeté un émoticône de surprise au-dessus de l'article de presse. On ne peut devenir que suspicieux par rapport aux performances. Ce n'est vraiment pas bon pour notre discipline, a expliqué Gilles Saisonnial, le patron de la Fédération française de natation samedi. Enfin, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a réfuté toutes les accusations de dopage, qualifiant ces révélations de fallacieuses.
Ah oui. Ah ben on peut leur faire confiance. Oui. Je vais te dire, la Chine, quand même, c'est démocratique. Et puis 23,
c'est leur truc.
23 erreurs.
Puis 23, c'est une coïncidence.
Oui.
23 erreurs, comment ça va
plus oui, avec le nombre qui sort.
Non, mais ils se foutent de qui Donc ils vont être suspendus, non?
C'est une affaire d'intérêt presque. Hein,
après, ce qui est un peu bizarre dans l'histoire, c'est que l'agence de dopage chinoise avait signalé les faits à l'Agence mondiale antidopage. Ouais. Et c'est l'Agence mondiale antidopage qui n'a pas fait le travail.
Le plus dérangeant, c'est que du coup, ça porte vraiment atteinte à la crédibilité de l'Agence mondiale antidopage. Ça, c'est le plus embêtant.
Non, puis même sur les jeux, c'était un Chinois qui est médaillé d'or en natation.
Il y en a eu, il y en a eu deux, je crois.
Il y a un concurrent à Léon Marchand dedans.
Oui, mais enfin, Léon Marchand, écoute-moi, il peut manger des choupa choups et des sucettes et il s'en fout, lui, ben, il sera premier.
Mais il ne faudrait pas qu'il y ait un Chinois devant lui. T'intervieweras derrière pour moi.
Bon, merci beaucoup, Nico.
Merci.
Tous les détails sont sur rmc.fr. On passe au cyclisme, Vincent, avec la démonstration de Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège.
Il est là.
Et la belle surprise, Vincent, côté français, c'est la deuxième place de Romain Bardet. On va y revenir avec Arnaud Souk.
Salut les amis.
Salut Arnaud.
Romain Bardet qu'on n'attendait peut-être pas à pareille fête sur Liège-Bastogne-Liège. Jusqu'à 33 ans, il a encore de belles victoires devant lui. Est-ce qu'on peut y croire?
Bah, s'il y en a, en tout cas, elles seront pas très nombreuses. Romain Bardet n'a connu le bonheur de lever les bras qu'à 10 reprises depuis le début de sa carrière. 3 fois sur le Tour de France, 1 fois sur la Vuelta. Mais les résultats, comme cette deuxième place hier sur Liège-Bastogne-Liège, la meilleure performance de sa carrière en classique, l'Auvergnat en redemande.
Honnêtement, c'est une victoire pour moi. Voilà, ce sera pas sur le palmarès, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez vu les loustiques avec qui j'ai affaire, donc non, c'est un de mes tout meilleurs résultats de carrière.
Voilà, l'une des 50 places de deuxième de Romain Bardet depuis qu'il est professionnel avec Idessi. Vous connaissez la suite, mais quand même, Romain Bardet montre une fois de plus qu'il s'en serait fallu peu quand même pour que son palmarès soit l'un des plus beaux du vélo français de nos jours. Vice-champion du monde 2018, deuxième d'Estrade Bianche 2018, deuxième de plusieurs étapes du Tour et de la Vuelta, tu l'as dit, deuxième également du classement général du Tour de France. Mais vu les larmes de Bardet hier à l'arrivée, cette deuxième place-là sur Liège-Bastogne-Liège valait peut-être un peu plus que d'autres.
J'ai eu beaucoup d'émotions parce que je me pose beaucoup de questions sur est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Je laisse mon fils de 100 jours par an pour faire des fois entre 7e et 12e des courses. Je me dis est-ce que ça vaut le coup. Et voilà, des jours comme ça fait plaisir aussi et ça remet un peu de baume au cœur.
Voilà, un petit peu de baume au cœur pour Romain Bardet aligné dès le premier week-end de mai sur le Giro, le Tour d'Italie et sur la forme d'hier, vu le plateau assez peu relevé cette année, à l'exception évidemment de Tadej Pogacar. Il ne lui est pas interdit de rêver à un podium au classement général comme donc il l'a déjà fait deux fois sur le Tour de France en 2016 et 2017.
Vincent, si tu as vu ce dilemme, toi, est-ce que je laisse ma famille 200 jours, un an de plus, tu aurais dit oui.
Ah oui.
Oui, je continue deux ans, même s'il faut.
Même encore maintenant. Tu
te rends compte, 52e place.
Hein. Non, mais c'est
52e
fou, ça.
Place. Ouais,
c'est dingue, hein, parce que ça se joue à que dalle. Souvent, ça ne se joue à rien. Chaque fois, les mecs, comme s'il y avait une espèce de.
Ah, il fait une belle carrière, hein, quand même. Hein. On a beaucoup.
Il y a une année, il aurait pu gagner. Quand il finit second, et à un moment donné, les maillots jaunes pendant combien de temps?
Non, il n'a jamais été maillot jaune sur le Tour de France. Mais l'année où il termine, en fait, il est tombé sur les grandes années de Christophe. Sauf Froome, voilà, mais peut-être que.
Froome.
Non, c'était trop compliqué. Je pense qu'il était à la fois si près et si loin de pouvoir gagner le Tour. Thibaut Pinot a été beaucoup plus proche de gagner le Tour en 2019.
S'il avait pris du TMZ, est-ce que ça l'aurait aidé quand même? Non.
Alors je sais pas. Je suis pas spécialiste de la question.
Peut-être qu'il aurait fait de la natation, peut-être. mais il y a qu'à voir. Il y a qu'à voir comme il était heureux hier de poster la photo où il est avec Pogacar et Van der Poel. Parce que pour lui, c'est un trophée. Cette photo, c'est un trophée. C'est-à-dire, à son âge, d'être sur ce podium-là, c'est énorme.
Avec deux mutants.
Voilà, c'est exactement. Donc, et il mesure ce qu'il a fait. Et à l'arrivée, c'est vrai que. Parce que nous, on parle toujours des vainqueurs, mais des mecs qui ont le.
Ça, ouais.
Oui, non, mais c'est un sport tellement difficile. Avec des spécificités aussi pour les classiques, pour les grands tours. Et lui, il fait quand même. Une très 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 belle carrière et malheureusement on n'en parle pas assez. On en a parlé quand il était deuxième de ce fameux tour, mais les mecs, quand tu es à ce niveau là toute ta carrière, c'est que tu as été sûrement au vélo quand même. C'est dur.
Tu crois qu'il a mesuré le temps qui passait?
Je suis pas sûr.
Fait le bilan calmement.
Non, mais en plus, bon, enfin, si on prend un gars comme Romain Bardet, il a subi une commotion il y a quelques années en ayant subi.
Enfin,
il a subi une terrible chute sur le Tour de France. Il s'est même pas rendu compte sur le coup qu'il avait une commotion. Il a continué l'étape. Le soir, finalement, il va à l'hôpital à Clermont. Ces gars-là, quand même, ils sont faits dans notre bois. Et je voudrais juste, parce que j'ai vu Stephen sourire quand j'ai dit que Romain Bardet. Quand Romain Bardet a dit cette deuxième place, c'est une victoire. Parce que toi, t'as étudié à chaque fois. Ah oui, il est français. Faudrait qu'il gagne.
Je rappelle juste qu'il y a
180 partants et il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc voilà.
Ces jours, ça finira mal.
Ça veut dire qu'il y a 179 partants au vélo.
Souvent, on en parle avec Eric, avec Pierrot, tout ça. Tu rigoles.
Tu rifagnes beaucoup, je trouve.
Tu rigoles beaucoup.
Il a tapé un drôle de délire là. Je n'ai pas rigolé du tout. J'ai écouté son papier.
Mais il fallait.
Samedi, dans Stephen Time, on parlait des débats. Qui est le plus important?
C'est bien que tu le reprennes.
Il fallait que quelqu'un te remette à ta place, toi. Voilà, bien.
Ne rigole plus maintenant.
Bien, Arnaud.
Merci beaucoup, Arnaud.
Ça va barder, sinon.
Merci, Arnaud.
Alors, Vincent, on va dire un mot de basket. Et donc là, on va vraiment écouter Stephen. Pour le coup, là, ce qui va
ne rigolez pas, je vous le dis.
Mais moi, je vais rigoler.
Juste un mot ça fait. Des playoffs NBA qui ont commencé. Il y a eu un match dans chaque série. Il y a eu très peu de matchs serrés.
Il y a eu très peu
de matchs équilibrés. Est-ce que tu as un truc à retenir? Une équipe peut-être un peu plus impressionnante? Une série qui s'annonce très excitante?
Bon, écoute, déjà, il faut savoir que toutes les équipes à domicile ont gagné. Les 8 équipes qui recevaient ont gagné. Donc ça fait 1-0 et on dit souvent que une série de playoffs démarre quand il y a une équipe qui gagne à l'extérieur. Là pour l'instant c'est pas le cas. Après il y a pour la symbolique, il y a une série qui est quand même fantastique à suivre, c'est Denver Lakers, c'est Nikola Jokic contre LeBron James. LeBron James qui est encore en playoff et qui a un niveau stratosphérique à quasiment 40 ans. Donc ça fait 1-0 pour Denver. Il y a le match 2 cette nuit encore dans le Colorado. Compliqué d'aller gagner dans le Colorado, pourquoi? Parce que c'est une ville qui est en altitude et c'est très pénible d'aller jouer là-bas.
Colorado Spring.
Exactement. T'as joué là-bas?
J'ai entraîné avec l'équipe NFL des Denver Broncos, je te rappelle.
Eh ouais, connais bien.
Merci. Ben voilà. Voilà. Non, mais des fois, je fais dans l'humilité, mais quelqu'un me parle à ma place et je préfère parce qu'on peut me dire que je me chauffe. On peut dire que je me chauffe. Voilà.
Mais Steve, oui, merci, Pierrot. Steve, est-ce que quand tu regardes ces premiers tours de play-off, parce qu'il y a des, je vous écoute un peu de temps en temps là sur votre, de votre basket time là, il y a des favoris en début de saison. Est-ce que sur ces premiers matchs de play-off, on se rend compte qu'il y a une équipe ou deux ou trois qui vont être les véritables favoris finalement Boston, de la compétition.
Boston qui a marché sur la saison régulière, qui a gagné 63 matchs. Là, ils ont détruit sur la première rencontre une équipe de Miami qui avait battu Boston la dernière 4-3, et Boston devrait logiquement arriver en finale de la conférence Est et j'espère en finale NBA.
Et puis juste un mot sur, parce que lors des récompenses, il y a quand même sur les trois finalistes du prix du meilleur défenseur de l'année, il y a deux Français, Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Que ce soit l'un ou l'autre, alors le troisième c'est Bam Adebayo, je sais pas, peut-être qu'il peut l'avoir, mais que ce soit Rudy ou Victor, ce serait incroyable comme perf. Hein. Jamais un rookie n'a été meilleur défenseur de l'année.
Un rookie meilleur défenseur de l'année, ça n'a jamais existé. Victor est dans les trois finalistes. Maintenant, le grand favori reste encore une fois Rudy Gobert, qui pourrait être sacré pour la quatrième fois avoir le trophée de défenseur de l'année quatre fois. Et là, il rentrerait dans un cercle très fermé, puisqu'il y a deux garçons seulement qui ont eu quatre fois le trophée du meilleur défenseur de l'année. C'est Dikembe Mutombo et Ben Wallace. Mais je pense que si c'est Rudy Gobert qui l'a, ce sera le dernier, parce que Victor va régner sur ce trophée pendant les 10 prochaines saisons.
Et au passage, ça se joue. Il y a une petite chance quand même avec Minnesota, qui est une équipe, l'équipe sensationnelle.
Il mène à zéro. Minnesota mène à zéro contre Phoenix. Et on rappelle que les Wolves, pourquoi Rudy a une grande chance de gagner ce trophée, que Minnesota est la meilleure équipe défensive de toute la ligue.
Le Wallace, là, une question.
Ben Wallace.
Est-ce qu'il est de la famille à Marcellus Wallace?
Il pourrait.
Et avec le maillot boule, il paraît qu'il fait le job. Mais dis-moi,
Steve, c'est du cinéma, hein.
Oui, Marcellus, Pulp Fiction. Dis-moi, Steve, ça se joue. Non, mais ça t'embête, je te pose des questions sur le basket.
Je te dis oui, Eric. Qu'est-ce qu'il y a?
Voilà. Non, mais tu me le dis d'une manière, je t'en dis oui.
Eric, tu ne vois pas bien
le rôle là. Ouais, rigole, Eric fagne tout le monde de lui. Non, mais ça se joue pas que sur les stats alors.
Les stats individuelles de quoi, le meilleur défenseur?
Oui.
T'as les stats individuelles, c'est-à-dire le nombre de contres, le nombre de rebonds, qui sont deux critères en général importants, mais t'as aussi les chiffres collectifs. Si ton équipe fait partie des meilleures équipes défensives de la ligue, t'as quand même plus de chances. C'est pour ça que Victor.
Ah bon? C'est bizarre, parce que pour moi, si t'as des meilleures stats et que t'as une équipe défensive est moins forte, tu devrais être meilleur défenseur du coup.
Ouais. Alors ça, c'est
parce que c'est plus dur de bien défendre quand tu es seul à défendre.
C'est pas très intéressant. Il faut qu'on avance.
Non, il rigole.